Vous écoutez On lit pour vous.
La prochaine danse à travers le monde. Un texte de Virginie Archambault paru dans le numéro 166 au printemps 2025 du magazine Paraquad. En préparant ce dossier sur la prochaine danse, nous nous sommes demandé comment ce rôle social se vit-il ailleurs dans le monde. De là est venue l'idée de nous intéresser à la littérature sur le sujet. Nous avons déniché le document de l'IACO, International Alliance of Carer Organizations, publié en 2021. L'IACO étant un réseau mondial d'organisations d'aidants travaillant ensemble pour la sensibilisation et la reconnaissance des proches aidants, c'est l'organisation désignée pour nous en apprendre davantage sur le sujet. Bien que chaque pays présenté dans le document ait ses particularités et ses lois en lien à la proche aidance, nous nous sommes concentrés sur trois pays ayant davantage attiré notre attention, soit l'Italie, la Suède et Taïwan, ainsi que le Canada à titre de pays comparatif. Canada. Le Canada compte 7,8 millions de personnes proches aidantes, soit l'équivalent de 20,6% de la population. Définition et législation. Au Canada, l'aidant désigne généralement les amis ou les membres de la famille qui apportent un soutien non rémunéré aux personnes ayant des limitations physiques ou cognitives, une blessure ou une maladie chronique. Il n'existe pas de législation fédérale reconnaissant officiellement les aidants. Toutefois, deux provinces, le Manitoba et l'Ontario, ont adopté des lois pour reconnaître le rôle des aidants. Et depuis le mois d'octobre 2020, une loi visant à reconnaître et à soutenir les proches aidants a été adoptée au Québec. De celle-ci découle la politique nationale pour les personnes proches aidants qui a été adoptée en avril 2021. Politique publique et reconnaissance. Le Canada reconnaît que les aidants apportent une contribution essentielle à travers des programmes de soins à domicile financés par le gouvernement, qui viennent en complément des soins apportés par la famille ou des amis. Le Québec est la seule province à avoir nommé une ministre spécifiquement chargée des proches aidants. Il s'agit présentement de Marguerite Blais. Les besoins des aidants sont de plus en plus pris en compte séparément de ceux des personnes qu'ils aident. Des outils d'évaluation de leurs besoins, tels que l'Inter-AI, permettent de mieux comprendre l'impact du rôle des aidants. Stratégie nationale et données sur les aidants. La détresse des aidants est l'un des 6 indicateurs pancanadiens développés par l'Institut canadien d'information sur la santé pour mesurer l'accès aux soins à domicile et à des services communautaires. Reconnaissance et soutien des aidants. Le premier mardi d'avril est désigné comme Journée nationale des aidants, une initiative soutenue par la coalition nationale Carers Canada. L'Association des jeunes aidants soutient les enfants et les jeunes qui assument un rôle d'aidant, bien que les jeunes de moins de 15 ans ne soient pas inclus dans les enquêtes nationales. Crédit d'impôt et avantages fiscaux. Le Canada propose plusieurs crédits d'impôt, comme le Crédit canadien pour aidants naturels, le Crédit d'impôt pour personnes handicapées, CIPH, et le Crédit d'impôt pour frais médicaux, pour alléger la charge financière des aidants. Certains crédits sont remboursables, par exemple au Manitoba et au Québec, tandis que d'autres ne le sont pas. En Nouvelle-Écosse, un programme appelé Caregiver Benefit offre des aides financières mensuelles aux aidants, avec des critères d'admissibilité. Outils pour trouver des bénéfices. Le gouvernement fédéral a mis en place un outil, Benefits Finder ou chercheur de prestations, pour aider les individus à trouver les bénéfices qu'ils peuvent obtenir en fonction de leur situation et de leur province ou territoire. Italie. L'Italie compte 7,5 millions de personnes proches aidantes, soit l'équivalent de 14,9% de la population. Législation. La loi nationale pour la reconnaissance et le soutien des aidants familiaux a été finalisée en 2020. Elle définit les proches aidants comme des personnes qui apportent une aide continue et gratuite à des membres de la famille en raison de maladies, de handicaps ou d'autres conditions. Un fonds national pour les aidants familiaux a été créé en 2017 pour reconnaître la valeur sociale et économique des aidants non rémunérés. Plusieurs régions ont reconnu formellement le rôle des aidants familiaux. Reconnaissance. L'Italie a une forte tradition de soins familiaux, où les femmes sont majoritairement responsables, 77 % des soins informels prodigués aux générations plus âgées. La loi nationale pour la reconnaissance et le soutien des aidants familiaux a mis en place la Journée nationale de l'aidant familial, célébrée chaque année le dernier samedi de mai. Jeunes aidants. Une statistique récente montre que plus de 390 000 jeunes âgés entre 15 et 24 ans en Italie sont responsables de soins, ce qui représente 6,6 % de cette tranche d'âge. Cependant, il y a peu de reconnaissance et de soutien pour ces jeunes aidants. Soutien financier. L'indemnité d'accompagnement est une allocation mensuelle universelle pour les personnes âgées handicapées, versée par l'Institut national de sécurité sociale. Elle permet aux familles d'engager de l'aide à domicile, y compris des travailleurs migrants. Les aidants familiaux qualifiés peuvent bénéficier de contributions de retraite payées par l'État pendant leur période de congé de soins, permettant un accès à la retraite anticipée. Congés de soignants. Des congés de soignants sont accordés aux travailleurs aidant un proche en situation de handicap. La loi stipule qu'un seul membre de la famille peut être désigné pour être l'aidant principal. Ces congés peuvent être payés à 100 % jusqu'à 2 ans. Éducation et soutien. Depuis 2004, le projet DALIA soutient les aidants familiaux en offrant des formations, des informations et un soutien pour l'inclusion sociale et professionnelle. Suède. La Suède compte 1,3 million de personnes proches aidantes, soit 12,8 % de la population. Législation et reconnaissance des aidants. La Suède ne dispose pas de législation spécifique aux aidants familiaux, mais les lois comme la Loi sur les services sociaux de 1982 et la Loi sur le soutien et les services pour les personnes ayant des handicaps fonctionnels, LSS, établissent un cadre pour la prise en charge des personnes nécessitant des soins. En 2009, des modifications ont permis d'introduire le soutien aux aidants familiaux, bien que les jeunes de moins de 18 ans ne soient pas spécifiquement mentionnés. Un projet d'une stratégie nationale pour les aidants a été initié en 2020, menant ainsi à l'organisation d'événements et conférences visant à sensibiliser et à promouvoir des politiques adaptées à leurs besoins. Jeunes aidants et projets associés. Les jeunes aidants en Suède, souvent négligés dans les politiques publiques, ont été reconnus plus tardivement. Des études menées en 2014 et 2017 ont révélé le besoin de renforcer le soutien à cette population. Le projet européen MiWi vise à améliorer la santé mentale des jeunes aidants en Europe et à émettre des recommandations politiques. Le projet EDICARE vise à sensibiliser les enseignants et le personnel éducatif à la reconnaissance et au soutien des jeunes aidants. Soutien financier et allocation. Différents types de prestations financières sont disponibles pour les aidants, comme l'allocation de soins à domicile qui offre une compensation financière mensuelle aux aidants familiaux. L'indemnité de congé pour soins aux proches permet aux aidants de recevoir un soutien financier lorsqu'ils prennent un congé pour s'occuper d'un parent malade. Travail et soins. Les employeurs en Suède sont tenus de maintenir le poste d'un salarié en congé de soignant. Évoquons l'aspect remarquable de la Directive européenne sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, qui a introduit des congés spécifiques pour les aidants, dont 5 jours de congés par an. Répit et soutien social. Certaines municipalités offrent des services de répit à domicile, des hébergements temporaires ou des activités de bien-être. Certaines proposent des groupes de soutien, des cafés-rencontres pour aidants et des interventions individuelles. Innovation. La Suède a développé des réseaux d'apprentissage hybride, qui sont des communautés de pratique rassemblant des acteurs divers pour discuter des défis et des solutions concernant les aidants. Taïwan. Taïwan compte 1,4 million de personnes proches aidantes, soit un pourcentage de 4,5% de la population. Législation. Les lois taïwanaises, notamment le code pénal, exige que les enfants soutiennent financièrement ou émotionnellement leurs parents vieillissants. Les enfants qui abandonnent leurs parents peuvent être passibles de peine de prison. La loi sur les soins de longue durée 2.0, introduite en 2017, établit un système de services pour aider les soignants familiaux, en offrant des services tels que des soins à domicile, des repas, des transports et du soutien pour les soignants eux-mêmes. Soutien aux aidants familiaux. La loi sur les soins de longue durée reconnaît les aidants familiaux comme des bénéficiaires légitimes des services de soins à domicile, en offrant des formations et du soutien. Le mois de novembre est consacré à la reconnaissance des aidants familiaux à Taïwan. L'Association taïwanaise des aidants familiaux organise une série d'activités comme des concerts et des prix pour ceux qui parviennent à équilibrer leur vie de travail et leurs tâches de soignants. Allocation de soins. Une allocation spéciale est disponible pour les aidants familiaux de personnes âgées à faible revenu seulement, permettant à un aidant de recevoir une aide financière mensuelle. Avantages fiscaux et travail. Les familles à faible et moyen revenu peuvent bénéficier de déductions fiscales pour les frais de soins de longue durée. Les travailleurs ont droit à un congé familial de 7 jours par an, mais les besoins restent sous-évalués. Soutien éducatif et jeunes aidants. Il n'existe pas de ressources officielles pour les jeunes aidants, mais il est reconnu que leurs besoins diffèrent de ceux des adultes. Soutien en répit et soins de santé. Le répit pour les aidants est fourni en fonction de la gravité du handicap du bénéficiaire des soins. Des services gratuits sont proposés par l'Association des aidants familiaux. Soutien émotionnel et social. Des lignes de consultation et des groupes de soutien ont été mis en place pour aider les aidants familiaux, avec des groupes de soutien, des formations aux techniques de soins et des activités de réduction du stress. Innovation et pratiques communautaires. Des cafés des aidants ont été mis en place dans les dernières années. Il s'agit d'espaces communautaires, en partenariat avec des cafés locaux, où les soignants peuvent se détendre et obtenir des informations. Ces cafés visent à améliorer la reconnaissance des besoins des aidants, à offrir un espace de répit et à les aider à réintégrer le monde du travail. En conclusion, bien que le rôle des proches aidants soit universel, chaque pays présente une approche unique en fonction de sa culture, de ses législations et de son fonctionnement. À travers les exemples des pays choisis, nous pouvons dénoter que la reconnaissance et l'accompagnement des aidants varient. Alors que certains pays, comme le Canada, ont mis en place des programmes et des politiques nationales de soutien, d'autres, comme la Suède, ont opté pour des législations plus générales, tout en favorisant des initiatives et des projets locaux. L'Italie et Taïwan, de leur côté, démontrent des modèles influencés par des traditions familiales profondes, où l'État tente progressivement d'apporter un plus grand soutien aux aidants familiaux. Toutefois, des défis demeurent partout, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des jeunes aidants et l'adaptation des politiques aux besoins spécifiques des proches aidants. Il a ainsi été démontré que la reconnaissance et le soutien des proches aidants sont essentiels à la conciliation travail-famille ainsi qu'à leur bien-être général. C'était « La proche aidance à travers le monde », un texte de Virginie Archambault paru dans le numéro 166 au printemps 2025 du magazine Paraquad.
Soulager la douleur chronique grâce à la psychothérapie. Un texte de Catherine Handfield paru le 14 septembre 2025 dans La Presse. Est-ce qu'une thérapie psychologique peut apporter un soulagement substantiel et durable de la douleur chronique, du moins chez certaines personnes? Cette idée intéresse de plus en plus les chercheurs et elle fait son chemin dans l'univers de la douleur chronique. Au Centre universitaire de santé McGill, un deuxième groupe de patients entreprendra cet automne une nouvelle forme de thérapie, la Pain Reprocessing Therapy, PRT, ou thérapie de reconditionnement de la douleur. L'approche a été développée dans les dernières années par des chercheurs américains en psychologie et neurosciences. L'objectif? Aider les patients à reconceptualiser leur douleur en leur faisant prendre conscience que celle-ci n'est pas due à une blessure qui refuse de guérir, mais plutôt à une activité du cerveau sans danger. Est-ce que cette thérapie peut fonctionner chez tout le monde? Non. Citation. Ça s'applique à une catégorie de personnes qui ont une douleur dans laquelle le cerveau est très, très impliqué dans la perception. Fin de citation, explique la psychologue Gabrielle Pagé, responsable des rencontres de PRT à l'unité de gestion de la douleur Allen Edwards du CUSUM. À la base, dit-elle, les chercheurs américains l'ont testé auprès de patients souffrant de maux de dos. Citation, c'est indiqué pour la fibromyalgie, pour les douleurs généralisées, en fait, quand il n'y a pas une cause structurelle claire. Fin de citation, résume Gabrielle Pagé, rencontrée à l'Hôpital général de Montréal, près du Mont-Royal. La douleur chronique, celle qui dure plus de 3 à 6 mois, est une condition très hétérogène, complexe, précise sa collègue Louisia Starnino, psychologue. Il en existe 3 classes, la douleur nociceptive, due à une lésion d'un tissu, et la douleur neuropathique, due à une lésion nerveuse, sont les formes plus connues et les plus étudiées. La 3e classe a été officiellement reconnue en 2017, c'est la douleur nociplastique, celle qui perdure sans preuve de lésion. Les mécanismes ne sont pas entièrement compris, mais c'est le système nerveux central qui maintiendrait la douleur en traitant de façon anormale les signaux de douleur. Le cerveau, en quelque sorte, hyper-réagirait à des stimuli de douleur. La fibromyalgie, le syndrome du côlon irritable et les maux de dos non spécifiques, entre autres, sont classés dans cette catégorie. Citation. C'est comme s'il y avait un système d'alarme en permanence dans la maison alors que tout le monde est en sécurité. Fin de citation, dit Amanda Gissondi. La douleur chronique ne tombe pas toujours dans une catégorie de façon nette. Elle peut être mixte. Citation. C'est la partie nociplastique qu'on peut venir moduler, parfois même transformer avec des thérapies en psychologie, dit Louisa Starnino. Qu'elle soit due à une lésion ou à un problème de perception du cerveau, la douleur est bien réelle et valide, insistent les 3 professionnels. La thérapie de reconditionnement de la douleur comporte d'ailleurs un volet d'éducation pour faire comprendre aux patients que leur douleur est vraie, mais que leur cerveau a simplement un grand rôle à jouer dans son origine. Les patients identifient ensuite des preuves à cet effet. Par exemple, ils perçoivent la douleur juste à l'idée de se lever. Puis, pour briser le cycle douleur-hypervigilance, ils s'exposent tranquillement, cesse de se protéger pour que le cerveau, finalement, crée de nouvelles connexions. Chez certains patients, la thérapie semble très, très bien fonctionner. Chez d'autres, moins, convient la psychologue Gabrielle Pagé, qui a accueilli une première cohorte de 7 patients au printemps 2025. L'équipe réfléchit à des façons d'adapter la thérapie au profil souvent complexe des patients dirigés vers le CUSUM. Citation. C'est un outil de plus qui s'ajoute à d'autres interventions aussi très pertinentes qui se font en douleur chronique. Fin de citation, résume Gabrielle Pagé. Multidisciplinaire. En 2021, le journal The Lancet a invité ses lecteurs à déconstruire l'idée reçue selon laquelle la douleur chronique témoigne d'une blessure persistante qui nécessite l'arrêt des activités. Citation : En réalité, la douleur chronique est souvent le résultat d'une signalisation neuronale anormale. Fin de citation, pouvait-on lire dans l'éditorial qui prônait une approche multiple abordant à la fois les sphères biologiques, psychologiques et sociales. Le coffre à outils du patient peut inclure des médicaments et des infiltrations, mais aussi de la physiothérapie, de la psychothérapie, des techniques de méditation, de l'activité physique, énumère l'infirmière Amanda Gissondi. Le plan de traitement doit être cohérent. La thérapie PRT, qui sous-entend que c'est le cerveau qui joue des tours, ne serait pas compatible, par exemple, avec des injections de cortisone. Quel que soit son type, la douleur est influencée à divers degrés par la psychologie. Gabrielle Paget donne l'exemple d'une personne qui se cogne l'orteil. Citation : Si je suis en train de me chicaner avec mon chum, ça va me faire beaucoup plus mal que si je viens d'apprendre que j'ai une promotion au travail. Fin de citation, illustre-t-elle. Les gens atteints de douleurs chroniques vivent souvent de la détresse, de l'anxiété, une dépression, un problème de dépendance. Des cercles vicieux peuvent ainsi s'installer. Citation : Traiter la douleur chronique, ce n'est pas juste donner un traitement pharmacologique. Il faut aussi la comprendre, l'accepter, puis trouver des façons de gérer le stress qui l'accompagne. Fin de citation, résume Amanda Gissondi. D'autres interventions en psychologie sont utilisées et visent généralement à améliorer le fonctionnement du patient en s'attardant à sa tendance à catastrophiser sa douleur et en l'amenant à mieux la gérer, à l'accepter et à s'engager dans des activités valorisantes. Atteint de dystrophie musculaire et opéré plus de 30 fois dans sa vie, Michael Donnelly ressent constamment des décharges électriques dans son corps. Pour préserver sa santé mentale, il fait beaucoup d'activités physiques et l'équipe l'a aidé à revoir ses attentes, à voir les choses autrement. Il consacre désormais son énergie à ce qu'il peut faire plutôt qu'à ses limites. Citation : La douleur est encore là, mais j'arrive maintenant à me concentrer sur mon quotidien. Fin de citation, dit Michael, aujourd'hui mentor d'un groupe de soutien. La douleur chronique affecte une personne sur cinq au Canada. Selon Santé Canada, le coût total en soins de santé et en perte de production s'élevait à 40 milliards de dollars en 2019. C'était « Soulager la douleur chronique grâce à la psychothérapie », un texte de Catherine Huntfield paru le 14 septembre 2025 dans La Presse.
Combattre les plantes envahissantes, un lac à la fois. Un texte de Julie Roy paru le 1er octobre 2025 dans La Presse. Août 2024, c'est la consternation au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le lac Otis est bel et bien envahi par le myriophylle à épi. Cette plante envahissante menace la santé et l'équilibre du milieu aquatique. Qui contacter? Phyto, F-Y-T-O, la seule entreprise de la province qui se consacre totalement à cette lutte et qui allie stratégie et travail terrain. Le problème a été connu en 2024, mais c'est seulement en 2025 que nous avons pu mettre en place une stratégie de contrôle. C'est la première fois que cette plante est détectée dans cette région, mais c'est un problème qui se répand, affirme Vincent Gagné, président et directeur général de Phyto. À l'heure actuelle, près de 200 plans d'eau dans la province seraient touchés. Un chiffre qui serait peut-être sous-estimé, selon le spécialiste. C'est une plante qui vient à la base de l'Eurasie. Elle a été importée et mise dans des aquariums comme décor, mais elle a été rejetée dans les lacs. L'enjeu est que la contamination est très facile. Elle se produit quand les plaisanciers se promènent d'un lac à l'autre sans laver à l'eau chaude leur embarcation, indique Vincent Gagné. Un projet de mémoire devenu entreprise. Phyto est venu au monde en 2021. C'est dans la foulée de sa maîtrise en aménagement du territoire et développement régional à l'Université Laval que Vincent Gagné a décidé de se concentrer sur la gestion des espèces exotiques envahissantes. Le myriophylle à épi envahit tout l'écosystème et entre en compétition avec les plantes indigènes. Je me suis vite rendu compte qu'on devait faire un plan de lutte, mais qu'il fallait ensuite entrer dans l'eau pour faire le travail. Le jeune entrepreneur a donc suivi son cours de plongée et s'est adjoint une équipe de plongeurs pour contrôler l'envahisseur. De trois, l'équipe s'agrandit à 24 personnes en saison. Elle compte dans ses rangs des plongeurs professionnels, mais également des spécialistes en environnement et des biologistes. Nous avons de plus en plus de mandats grâce aux bouche-à-oreille, nous dit Vincent Gagné. Le chiffre d'affaires a quadruplé en 4 ans. Notre croissance moyenne annuelle est de 60 %. En 2026, on prévoit encore une hausse. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais cela prouve que la problématique est réelle et qu'on doit agir. Un long processus. Éliminer à 100 % le myriophylle à épi est impossible, mais les stratégies de contrôle sont efficaces, comme l'installation d'une toile, l'arrachage et l'aspiration sous-marine. Cependant, ces travaux exigent des autorisations et doivent être réalisés selon des normes précises. C'est la raison pour laquelle les demandes que reçoit Phyto cette année ne pourront déboucher sur des travaux qu'en 2027. On doit faire un inventaire, bâtir une stratégie avec la description du milieu. Ensuite, acheminer le tout au ministère avant que nous ayons les autorisations. En moyenne, le processus dure 1 an. Des riverains s'unissent. Pour plusieurs, l'attente en vaut la peine, car cette plante envahissante cause de nombreux soucis aux riverains qui se retrouvent face à un lac aux allures de marécage. D'ailleurs, ce sont eux qui s'unissent pour payer la facture. Certains mandats peuvent coûter jusqu'à 200 000 $ par an, mais le ministère de l'Environnement n'a pas les ressources pour payer ça. L'enjeu, c'est que plus le problème est présent depuis longtemps, plus il est onéreux à traiter. Ce sont donc des associations de riverains, des citoyens et des municipalités qui s'unissent pour payer les coûts, souligne le spécialiste. C'était « Combattre les plantes envahissantes, un lac à la fois », un texte de Julie Roy, paru le 1er octobre 2025 dans La Presse.